Bonjour.
Bonjour.
Bon, voilà, bien. Merci pour tout ce que vous avez apporté et donné déjà jusqu'à ce moment pour ce culte. J'avoue que j'avais besoin un petit peu de prière parce que c'est mon cœur de pasteur. J'aurais espéré voir celui un petit peu plus rempli aujourd'hui. Je vous le cache pas. C'est vrai qu'il y a un petit pincement à mon cœur. C'est pas la responsabilité de qui que ce soit, mais c'est des fois un petit peu dur parce qu'on se donne à fond.
Et puis je sais que le résultat, il n'est pas forcément dans le nombre, mais ça y contribue. Alors, j'avais un petit pincement au cœur et j'avais besoin de vous le dire. Et puis, je veux juste merci Edison pour la prière. Moi, j'ai juste besoin aussi de poser quelques secondes et puis de commencer aussi par la prière. Ça vous va ? Père, c'est vrai, tu entends aujourd'hui ma petite frustration de pasteur. Merci parce que je sais aussi que tu l'accueilles, que tu la comprends. Mais Seigneur, on veut regarder à toi encore cet après-midi. Seigneur, on est là pour toi. On est là pour écouter ce que tu as à dire. On est là pour se réjouir dans ta présence. Et Saint-Esprit, je veux encore accueillir, c'est vrai, ta joie dans ce temps de Noël. Merci Jésus, parce que tu n'es pas limité par nos obstacles à nous, pour nous toucher encore. Et Seigneur, je prie pour un temps vraiment joyeux dans ce lieu cet après-midi, avec les personnes qui sont là. Seigneur, je prie que nous puissions nous rencontrer, je prie que nous ayons des moments bénissants, des contacts qui font du bien, des encouragements les uns des autres. Saint-Esprit, descend encore dans ce temps, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, maintenant je suis prêt. Maintenant je suis en feu. Alors, Edison disait qu'effectivement j'avais un petit cadeau pour vous. Eh bien, vous allez certainement rire. Bon, le cadeau, c'est peut-être qu'on va continuer ensemble à prendre des victoires. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ouais, c'est bien. Remettez la lumière, comme ça je vous vois un peu. Déjà que vous n'êtes pas nombreux, alors si en plus je ne vous vois pas. Non, je rigole. Est-ce que vous êtes prêts pour remporter des victoires ou une victoire supplémentaire aujourd'hui? Ouais, c'est ce que je pensais. J'avais mis dans mes notes, ils vont crier parce qu'on est l'après-midi. Mais en fait, non, ça ne change rien. Hein. Vous êtes un petit peu timide quand même. Donc, vous êtes prêts? Bon, alors on va y aller. Donc, nous avions parlé d'être. Le premier message, c'est vraiment d'être libéré d'un sentiment d'impuissance. Hein, finalement, d'accepter de croire que ce que Dieu dit est vrai. Croire que tout est possible. Et puis, on a parlé aussi de la dépression la semaine dernière. Donc voilà. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va parler la semaine prochaine, c'est la culpabilité. Mais aujourd'hui, on va prendre une victoire sur l'orgueil. Une victoire sur l'orgueil. Bon, alors tous ceux qui se sentent pas concernés par le sujet, vous pouvez partir, puis vous revenez dans 30 minutes pour l'apéritif. Hein? Il n'y aura plus personne, en tout cas, il n'y a que les modestes qui vont rester, c'est ça, hein? Bon, il n'y a personne qui ose partir comme ça, c'est foutu. Alors, une petite citation que j'ai trouvée vraiment cool, peut-être vous la connaissez. L'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine, tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. Ah, c'est pas mal ça. Hein? Bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, depuis qu'on a les masques, on sait un peu mieux quand on a une mauvaise haleine. Bon, alors l'orgueil, bon, ça fait un peu mal comme thème pour un culte de Noël, franchement. Hein, quel cadeau, Luc, merci beaucoup. Mais bon, j'aimerais commencer par faire le lien pour vous rassurer. Il y a un lien évident avec Noël, je vous le promets. Et même, je crois qu'on ne devrait pas prêcher Noël sans prêcher le thème de l'orgueil. Pour moi, c'est vraiment, ça va avec. Donc, on va lire un passage dans Luc au chapitre 1, les versets 46 à 55. Je vous donne rapidement le contexte. Donc, Marie a été visitée par l'ange Gabriel, elle apprend qu'elle va être enceinte, et même à ce moment-là, dans le texte, elle est déjà enceinte, elle apprend que sa parente, Élisabeth, est aussi enceinte, hein. C'est sympa, les mamans qui ont été enceintes avec leurs copines, leurs sœurs, des trucs comme ça, en même temps, elles ont toujours du plaisir, hein. Comme ça, elles peuvent acheter les trucs en même temps, réfléchir, tout ça, ça leur plaît beaucoup. Donc, Marie ne fait pas exception, c'est une femme ordinaire qui a du plaisir de retrouver Élisabeth, hein, pour parler maternité, voilà. Alors, voilà, Élisabeth va rencontrer Marie, elle va être remplie de l'esprit. À ce moment-là, elle va comprendre directement que le bébé dans le ventre de Marie, c'est son Seigneur. Et puis, Marie va répondre avec ce que nous appelons le cantique de Marie, l'hymne ou même un magnificat qui dit ceci, verset 46, « Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec force, avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants et leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Amen. Alors dans ce texte, il y a une partie qui s'adresse à Dieu et une part qui décrit l'action de Dieu au travers le Christ. Par exemple, au verset 51, on a lu « Il a déployé le pouvoir de son bras ». Je ne sais pas si j'ai pris exactement la main. « Il a agi avec la force de son bras » dans cette version-là. Hein, donc Marie parle à Dieu, elle parle de Dieu, mais comment Dieu a déployé son bras ? Par Jésus-Christ. Vous voyez le rapport ? Hein, donc qu'elle dit, elle parle de Jésus-Christ qui vient, qu'elle porte déjà dans son ventre. Donc c'est la venue de Jésus dans l'humanité. Pour revenir à notre thème, donc, nous voyons tout d'abord dans ce texte que Dieu s'est adressé à Marie. Il a vu en Marie une femme humble, une humble servante. Ce terme, il est traduit par bassesse, abaissement. Donc elle était descendante, on le sait, du roi David. Mais c'est une femme modeste et pauvre. Et il semblerait que ça a été un des critères de choix pour que Dieu choisissent Marie. Comme je viens de le dire à partir du verset 51, c'est l'action de Dieu au travers de Jésus qui nous est décrite. Et tout nous parle d'humilité. Si vous relisez un petit peu depuis le verset 52, hein, il a dispersé ou renversé les puissants de leur trône. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Donc il a renversé les puissants, il a élevé les humbles. Il a rassasié ceux qui avaient faim en opposition aux riches qui n'avaient besoin de rien. Donc si Dieu a choisi la plus humble du peuple pour porter Jésus, ça c'est déjà un message en soi. Il rejette toute idée de grandeur, ou de grandeur humaine en tout cas. Le message fort des évangiles est le suivant, c'est d'être d'élever celui qui s'abaisse et celui qui s'élève sera abaissé. On trouve ça en Luc 14 et en Luc 18. Alors, il est quand même intéressant de préciser, comme le fait le théologien protestant Frédéric Godet, peut-être que vous avez déjà lu des commentaires, il est décédé, hein, qu'on ne doit pas prendre ces expressions puissant, petit, riche, pauvre, ni exclusivement dans le sens social, ni exclusivement dans le sens spirituel. Tous ces termes sont réunis, les deux notions spirituelles et temporelles sont réunies ici. Et ce message d'humilité, il reste tout au long du message de Jésus. Vous connaissez ces textes, Marc 10, 42-45, je lis rapidement. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il est venu, Noël, il est venu, Jésus est venu pour servir et donner sa vie. C'est le message qu'on retrouve aussi dans les Béatitudes, lorsque Jésus dit en Matthieu 5, verset 3, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Verset 5, « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » On voit le parallèle avec ce cantique de Marie. Dans ces textes, on trouve donc ce sens social et spirituel que Jésus a lui-même parfaitement incarné par son exemple. Alors, l'orgueil, c'est un véritable problème auquel on doit tous faire face. C'est un véritable problème qui nous colle à la peau. Moi, je le vois déjà avec les enfants, hein, c'est incroyable. Comme ils ont de la peine. Ils ont de la peine à s'excuser, comme ils sont souvent fiers. C'est fou, ça nous colle à la peau. Mais l'orgueil, c'est très spirituel. En fait, c'est par péché d'orgueil que Satan lui-même a été précipité dans sa chute. On sait peu de choses, hein. On sait que c'était un ange de lumière. Mais il y a deux textes qui font écho, je vais aller très vite, mais c'est pour comprendre que cette origine, elle est vraiment très spirituelle. C'est dans Ézéchiel 28, puis dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28 nous dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. » Donc c'est un jugement contre le prince de Tyr qui fait écho à la personne de Lucifer. Donc il a dit « Je suis Dieu », il a voulu prendre vraiment cette place de Dieu. Et puis dans Ésaïe 14, tu disais « En ton cœur, je montrerai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » C'est ça qui a amené la chute de cet ange de lumière qui est devenu Satan. Et qu'est-ce que... Donc c'est vraiment le péché d'orgueil. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr, en Éden ? Eh bien... Il a fait exactement la même chose. C'était un péché d'orgueil, on pourrait dire un péché d'incrédulité et d'orgueil, parce que Satan, il a remis en question ce que Dieu avait dit. Hein, quand il a tenté Ève, il a dit « Mais est-ce que vraiment Dieu a dit ?» C'est l'incrédulité. Hein, vous comprenez pourquoi on a de la peine avec l'incrédulité, croire les paroles de Dieu. Et puis qu'est-ce qu'il a dit ensuite ? Il a dit « Vous serez comme des dieux. » Vous serez comme des dieux. Vous allez être des dieux. Vous êtes à la même hauteur que Dieu. L'orgueil. Donc, son origine, l'orgueil, on peut vraiment dire que l'orgueil est complètement opposé et contraire au cœur de Dieu. Et la parole, elle est très claire dans ce sens-là. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ça va ? Jusque-là, ça va, je ne vous ai pas encore trop... Attends, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, les symptômes de l'orgueil. Quelques symptômes tirés de ce livre. J'ai fait une petite synthèse rapide. Un livre de Jean-Marie Ribet, qui est pasteur et enseignant à l'église Porte Ouverte de Mulhouse. On l'a déjà eu, en tout cas les pasteurs, on l'a eu comme enseignant, un excellent enseignant. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'inviter une fois aussi ici. Quelques symptômes. Ça ne nous concerne pas. Hein. Alors, l'orgueilleux, il aime bien être le premier. Il aime bien être le meilleur. Alors, on voit dans la Bible, hein, les pharisiens qui aiment bien avoir les meilleures places, les premières places, etc. Mais il y a aussi le côté compétitif. Hein. Il faut être le meilleur. Et puis pour ça, ben, on peut être prêt à pas mal de choses. Quand on est orgueilleux, on aime recevoir des honneurs, des compliments. Bon, on aime tous recevoir un peu des compliments. Hein, mais... De nouveau, il y a ce côté où ils vont aller chercher, on va chercher l'honneur, on va chercher les compliments. Hein, c'est si moi je viens vous, on a parlé qu'on n'aimait pas trop les critiques. On a eu une petite retraite du conseil d'anciens. On a réalisé qu'on était beaucoup à ne pas trop aimer les critiques. Hein. Bon, c'est assez normal aussi, mais ça vient travailler aussi cet orgueil. Mais c'est clair que je pourrais venir après dire est-ce que vous avez apprécié la prédication? Et puis en fait, c'est juste parce que j'ai envie que vous me disiez que c'était bien. Hein, mais si vous me dites que ce n'est pas bien, alors là, je ne sais pas comment je vais le vivre. Hein, non, je ne dis pas que c'est le cas pour moi, mais vous comprenez. Donc des fois, c'est un peu caché, on peut venir chercher l'honneur, on peut venir chercher le compliment, juste parce qu'on en a besoin. Okay, on n'est pas indifférent au titre, hein, docteur, directeur. On aime bien être appelé pasteur. Bon, c'est manqué dans le Nord-Vaudois. Hein. À Genève, les gens m'appelaient pasteur. Je devais leur dire arrêtez de m'appeler pasteur parce que vraiment, ça devenait presque gênant. Mais c'est aussi les cultures. Mais donc je leur pardonnais. Mais c'est vrai que voilà, il y en a. Hein, excusez-moi, c'est docteur. Hein, il faut pas louper le titre. L'orgueilleux a de la difficulté à travailler en équipe. Pourquoi ? Parce que il aime bien tout maîtriser. Et puis, il a de la peine à reconnaître en fait qu'il a besoin des autres. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire ça tout seul. Hein, mais de reconnaître le talent de l'autre et puis de lui dire « Waouh, t'es complémentaire, waouh, c'est génial ce que tu fais, merci !» Et bien là, en fait, ça vient le désécuriser presque et ça vient le gêner. Hein. L'autre est un concurrent, donc mieux vaut rester tout seul. Il a de la difficulté dans les relations humaines, bah là aussi parce qu'il a parfois de la peine à encourager, à voir le bon dans l'autre, hein, parce que tout le monde est en concurrence avec lui. L'orgueilleux est susceptible. Ah, la susceptibilité, je pense qu'on a tous eu des relations où d'un coup on dit quelque chose à quelqu'un, puis ça se passe pas tout à fait comme on avait prévu. Hein, y a une réaction à laquelle on s'y attendait pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ça se travaille. Point 7, il prend soin de son apparence et est sensible à ce que l'on dit de lui. Donc, c'est important de prendre soin de votre apparence. Hein, moi, je me suis rasé avant de venir. C'est important, prenez des douches, tout va bien. Mais simplement, dans l'excès, ça veut dire qu'on fait toujours des choses pour qu'on maîtrise en fait ce qu'on dit de nous. Quelque part, on cherche à ce qu'on dit de nous soit positif, toujours, etc. etc. Donc, on pourrait même être vraiment dans une forme d'hypocrisie, même d'hypocrisie spirituelle, hein, faire le bon chrétien pour qu'on dise des bonnes choses de nous. Ben, c'est ça qui est le plus important pour nous. On a tendance à étaler ses capacités et ses réussites. Hein, donc, notre CV, on le dit à tout le monde. Et puis, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi, où on a passé, etc., etc. Même si on n'a pas grand-chose, hein, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Alors, ensuite, on a tendance à se surestimer, donc à croire, à nous voir plus fort que l'on ne l'est vraiment, hein, donc à surestimer nos capacités. L'orgueilleux, il aime être différent des autres, dans le sens qu'il n'est pas le même, il ne peut pas être dans le groupe, enfin, il est différent. Excusez-moi, moi je suis pas dans l'équipe, là, c'est moi, vous comprenez ? Hein, donc, être dans le groupe, c'est une difficulté. Il cherche à quelque part avoir un traitement différent. Il cherche la perfection pour ne pas être pris en défaut. Donc, souvent, il vise très haut, il veut viser la perfection. Comme ça, il est sûr que ça va être nickel et puis qu'il ne va pas faire d'erreur. Donc, il cherche toujours à être parfait. Et puis, ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est fatigant pour les autres aussi. Et puis, il a de la difficulté à se soumettre. Ben pourquoi ? Parce qu'il aime mieux être le chef, à quelque part. Hein, donc, si c'est quelqu'un d'autre qui lui dit ce qu'il doit faire, ben ce n'est pas tout facile à gérer, parce que de toute façon, ce que lui pense, puisque lui l'aurait fait, c'est mieux. Donc, pas facile de rentrer dans le cadre. Ok, est-ce que vous êtes reconnus ? Il y a des gens honnêtes, c'est magnifique. Ça nous touche tous un petit peu, hein, d'une manière plus forte, moins forte. On a tous un petit peu de tout ça en nous. Mais comme je l'ai dit, le problème de l'orgueil, c'est qu'il est contraire au caractère de Dieu. Il nous éloigne de Dieu. Et si je parle de l'orgueil dans ce culte de Noël, c'est justement pour que nous en prenions conscience. Je ne peux pas recevoir Jésus en gardant mon cœur orgueilleux. Je ne peux pas. J'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'une victoire sur l'orgueil dans ma vie. Sans cela, il y aura toujours des obstacles, des barrières qui vont m'empêcher de saisir ce que Dieu a en réserve pour moi. Et on va encore le regarder avec quatre choses. Pourquoi ? Pourquoi il y a des barrières ? Pourquoi l'orgueil met ses barrières ? Premièrement, parce que l'orgueil dit « je suis ». Notre vision de nous-mêmes, elle est élevée. On a une haute estime de nous-mêmes. Nous ne sommes, comme je l'ai dit avant, pas n'importe qui. Vous voyez la chaise ? Hein ? Ça, c'est la chaise de l'orgueilleux. Ce n'est pas n'importe laquelle. On a peut-être un titre. Hein, peut-être notre titre, ça nous rend plus orgueilleux. Peut-être notre nom de famille. Excusez-moi, je suis un Haussmann. Hein. Quand même. Hein, bon, ça ne veut rien dire, hein, c'est clair. Mais il y a peut-être des noms, même à Yverdon, hein, vous dites, suivant quel nom, ah, c'est le fils du notaire. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, des fois le nom de famille, un nom de famille qui ne devrait pas être oublié. Mais des fois l'orgueilleux, il n'a pas besoin que son nom soit connu pour le faire connaître. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je m'appelle Luc Haussmann, puis vous allez vous en souvenir, messieurs. Mesdames aussi. Vous voyez ? Parce que là, c'est l'orgueil qui parle. Alors, quand on est... je suis, eh ben, il nous dit, on ne trouve pas normal qu'on ne nous adresse pas la parole. On ne trouve pas normal qu'on ne vienne pas nous servir ou nous servir rapidement au resto. Ah, excusez-moi, je suis dans ce restaurant, vous ne venez pas me servir. Parce que la personne, elle se croit un petit peu différente des autres. Mais il y a 100 clients dans le restaurant... mais là, ça fait 10 minutes que j'attends, excusez-moi. Vous voyez un petit peu ce côté-là. On ne trouve pas normal de ne pas être appelé par notre titre. On n'aime pas passer inaperçu et être justement traité comme les autres. Alors, vous dites, bon, ça, c'est des choses jolies, mais je vais rentrer, je vais être très vulnérable. Heureusement, le Saint-Esprit a travaillé mon cœur avec ces choses-là. Moi, j'étais le petit dernier hein, de 4 enfants. Et puis, quand on est le petit dernier, on a des fois besoin d'être un peu reconnu. Alors, d'être différent. Alors, moi, j'aimais bien, justement, être différent des autres. Et puis, pour moi, c'était important qu'on me remarque. Vous voyez ? Ça, c'est de l'orgueil. Mais le Saint-Esprit a travaillé. J'ai fait des années les flambeaux. Mon père était le CG, le chef général des flambeaux. Il avait créé le groupe. Alors, depuis tout petit, j'allais avec lui, même si je n'avais pas l'âge. Mais à un moment donné, j'ai dû comprendre que ce n'est pas parce que je suis le fils du chef que j'ai un privilège. Je dois faire la queue comme tout le monde pour aller chercher mon pain et mon chocolat au goûter. Je ne peux pas passer devant. Mais moi, je pensais quand même que je pouvais passer devant. Je suis le chef, je suis le fils du chef. Vous voyez ? Ça, c'est toutes des choses, mais ça vient dans l'enfance. Hein ? Donc, petit à petit, si on ne travaille pas ça assez vite, imaginez ce que ça donne à 40 ans. Donc... je me suis retrouvé étranger. Ça fait du bien d'être étranger, je peux vous dire. Suisse au Québec. Mais quelle horreur ! Au service des autos, mais j'ai été mal reçu. Hein. Ça a pris un temps de malade. Et puis, on n'était pas sûr que j'allais payer. Mon permis de conduire, il fallait le payer. Mais je suis suisse, purée. Quand même ! Traitez-moi un peu correctement. Pas comme les autres étrangers. Je suis suisse, mais nous, on a l'argent. Vous voyez ? Hein ? Non, mais je dis ça, mais je l'ai pensé, hein, je vous assure, sur le moment. Je dis quand même, terrible, hein ? Le Saint-Esprit travaille. J'ai été directeur du Forum des Hommes. Le Saint-Esprit me dit, tu fais ça pourquoi ? Pour le titre ? Non. Bon, peut-être un petit peu, je trouve sympa quand même, directeur. Ah. Bon, j'ai compris qu'on peut être directeur de ce qu'on veut. Si vous voulez être directeur, demande quelque chose, vous faites une carte de visite, vous pouvez être directeur, vous pouvez créer une association, vous pouvez être directeur, mais vous verrez que le titre ne rend pas la personne compétente. Vous pouvez vous appeler directeur, mais ça ne change rien en fait. Le titre ne fait pas de nous des bons leaders. Le titre peut nous apporter une forme d'autorité, c'est vrai. Les gens vont peut-être obéir parce que vous êtes le directeur, mais je peux vous dire que ce genre d'obéissance-là, ça ne fait pas grandir le groupe. Donc finalement, le titre, on s'en fout. Mais il faut le vivre, il faut le comprendre. Dire, ok, peu importe comment on m'appelle, ce que je dois travailler, c'est mon caractère, c'est ma compétence, c'est être au bon endroit. Et je crois que c'est ce que Dieu a travaillé dans ma vie. Je crois qu'il m'a placé ici, je crois qu'il me demande d'exercer une fonction avec conviction et droiture, mais je suis conscient d'être personne, si ce n'est enfant de Dieu, comme chacun d'entre vous. Et lorsque le « je suis » de l'orgueil tombe, Dieu peut alors nous dire qui nous sommes vraiment et qui il est. Je vais leur dire une fois, lorsque le « je suis » de l'orgueil tombe, Dieu peut nous dire qui nous sommes vraiment et qui il est. Tant que moi je me crois je ne sais pas qui, il n'a pas l'occasion de me dire qui je suis. Donc il faut à un moment donné que ça tombe pour qu'il puisse me dire vraiment qui on est. Et puis par la même occasion, qui il est. Car tant que le « je suis » de l'orgueil prédomine, je ne peux pas rencontrer le vrai grand « je suis ». Jésus, lui, il sait qui il est, mais il ne s'impose pas. Lui, il est humble. Lui, c'est un gentleman. Il ne s'impose pas. Il attend. Lui, c'est le serviteur de tous. Il attend que nous abaissions, que nous le reconnaissions pour qui il est. Qu'on arrête de se préoccuper de nous-mêmes pour se préoccuper de lui. Voilà ce qu'il attend. Vous êtes encore avec moi ? Deuxième, l'orgueil dit « je sais ». Je sais, je sais déjà. L'autre n'a pas la possibilité de nous apprendre quelque chose, on le sait déjà. C'est quand même génial. Hein, tu aimerais donner un conseil, tu dis « mais il n'y a pas besoin, je sais déjà ». Ça, c'est mon ado maintenant. Tout ce qu'on lui dit, on a beau lui dire trois fois dans la journée, il fait trois fois faux, mais il sait. Bon, c'est le moment qu'il apprenne, c'est magnifique. Hein ? Alors, on n'y a peut-être pas prêté attention juste maintenant, hein, ça c'est un peu l'excuse. Oui, non, je sais, je savais. Hein, j'ai fait faux, on va dire j'ai fait faux, on dit je savais. Pourquoi tu as fait faux ? Bon, mais on sait. Il ne faut surtout rien nous dire. Alors, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de remise en question. Je sais. En plus, je sais ce qui devrait se passer et comment ça devrait se passer. Parce que comme je l'ai dit avant, je sais mieux que tout le monde. Donc si je ne suis pas écouté dans mes idées, lorsque le projet aura planté, hein, puis si on n'est pas écouté dans nos idées, qu'on est orgueilleux, ben, on se réjouit que le projet se plante, parce que là, on pourra dire, « Haha, vous ne m'avez pas écouté. C'était moi qui avais raison. J'avais des bonnes idées. » Alors là encore, pour ma part, le Saint-Esprit a travaillé en me disant, « Luc, tu sais pas. Luc, tu sais pas. » Bon, c'est pas facile au début, hein, je peux vous dire. Petit à petit, j'ai appris à reconnaître qu'effectivement, je ne savais pas. Puis maintenant, je le vis assez bien. Je ne sais pas. Mais lui, il est Dieu. Lui, il sait. C'est un peu le message que Dieu dit à Job dans toutes ses questions. On dirait, oh mais Job, il n'est pas d'orgueil dans Job, en Job. Mais oui, il a quand même appris une leçon d'humilité. Job, c'était un homme riche, c'était un homme respecté. On dit que c'était le plus riche. Il était vraiment, c'était incroyable, c'était un homme pieux. Donc un homme au cœur pur, on pourrait dire un bon religieux, mais pas dans un terme négatif. Un homme pieux. Mais l'orgueil était quand même présent. Et quand Job n'a pas vu Dieu intervenir, il s'est quand même posé des questions. Est-ce que c'était normal que ça aille aussi loin ? Est-ce que c'était normal que ça prenne aussi longtemps ? Quand même, je suis Job, mec, tu fais quoi ? Dieu, agis ! Laisse-moi pas comme ça ! C'est trop dur ! Et puis Dieu va lui dire, où étais-tu quand je fondais la terre ? Déclare-le puisque tu es si intelligent. J'aime bien. Vu que tu sais, vu que tu es si intelligent, dis-moi où j'étais. Dis-moi où tu étais quand je fondais la terre. Puis là, oh, ah ouais, ah bah c'est vrai, ben tu es Dieu, puis moi je ne suis pas Dieu. Voilà. Alors cette leçon m'a permis de m'ouvrir au point de vue des autres. L'autre a quelque chose à m'apporter que je n'ai pas. Cela m'a permis aussi d'accepter les critiques sans me justifier. Merveilleux. de recevoir une critique, qu'on soit d'accord ou pas, qu'elle vienne nous piquer ou pas, tu te tais, tu prends, puis tu iras regarder avec ton Seigneur. Si c'est injustifié, il te fera justice. Si c'est justifié et que ça te fait un peu mal, parce qu'on dit des fois la vérité, elle fait un petit peu mal, eh ben laisse le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. Mais arrête de dire « je savais ». Arrête de dire « ah, mais c'est parce que ». Tu prends, tu fermes ta bouche. Oh, je peux vous dire que ça change la vie. Bon, alors, comme nous l'avons évoqué avec les symptômes, l'orgueil nous empêche d'être vulnérables, de laisser paraître nos faiblesses, car ce que les gens pensent de nous est trop important. Donc, quand on a une critique, on a besoin de se justifier, mais alors qu'on peut être vulnérable, on peut accepter qu'on ne fait pas tout juste. Puis c'est OK avec ça. Lorsqu'on lâche le « je sais » de l'orgueil, on lâche cela aussi et Dieu devient pour nous petit à petit suffisant. Son amour nous suffit. Parce que l'amour de Dieu ne change pas. Que je sache ou que je ne sache pas, il ne change pas. Que je fasse juste ou que je fasse faux, l'amour de Dieu ne change pas. Et il a même du plaisir lorsque je reconnais ne pas savoir parce que lui peut m'apprendre. Imaginez, votre enfant, il vous dit toujours « je sais », vous ne pouvez jamais rien lui montrer. C'est frustrant, c'est pénible. Vous avez envie de lui transmettre quelque chose, puis il dit « non, je sais déjà ». Alors quand on dit au Seigneur « mais je ne sais pas, apprends-moi », on a un Seigneur content. Troisième chose, l'orgueil dit « je n'ai pas besoin ». Je n'ai pas besoin d'aide. Je me débrouille seul. Cela démontre encore une fois notre difficulté à accepter d'être vulnérable ou notre volonté de ne pas montrer nos faiblesses. Il semblerait que chez les gars, ça se manifeste assez bien au volant d'une voiture, par exemple. Je ne sais pas. Hein. Est-ce que vous êtes facilement enclin à demander votre route lorsque vous êtes perdu, messieurs ? Bah, bravo, Philippe. Moi, je dirais probablement que non, parce que les gars, on n'est pas perdu. On n'est jamais perdu. Tout le monde dans la voiture dit qu'on est perdu, mais nous, non. Non, non, ça va. Hein ? T'inquiète pas, on n'a pas besoin d'aide, chérie. Non, non, ça va. Et puis, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est prêt à perdre du temps et faire des kilomètres. Imaginez, on n'a pas de réseau pour aller chercher du réseau, pour aller chercher sur l'Internet, la bonne adresse, etc., plutôt que de demander à quelqu'un notre chemin. Ça, on est capable de perdre un temps fou pour ça. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est demander à quelqu'un et avouer qu'on est perdu. Alors, du coup, ben oui, il est difficile de travailler en équipe, il est difficile d'aller demander des conseils à ceux qui nous ont précédés, à nos pères, c'est difficile d'aller demander des conseils. C'est difficile aussi d'aller demander conseil à des spécialistes parce qu'on veut se débrouiller tout seul. Et là aussi, le Saint-Esprit m'a travaillé fort ces dernières années. En arrivant ici, je voulais probablement, ou peut-être inconsciemment, prouver que je pouvais y arriver tout seul. Même si j'étais jeune. Puis par différentes situations, Dieu m'a forcé à aller chercher de l'aide, des conseils. Et puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais une petite résistance, en fait, à aller chercher des conseils. Mais il m'a fallu être dans une situation difficile pour que je le réalise et que je l'accepte. Puis le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce qui est honorable, c'est ne pas d'y arriver seul, c'est d'avoir l'humilité d'aller chercher conseil et d'accepter avoir besoin d'aide. Ça, c'est honorable. Mais que j'y arrive tout seul, ça ne l'intéresse pas tellement. En fait, si nous pensons que pour réussir, il faut faire les choses seul, ben, je peux déjà vous dire qu'on fait fausse route. Je suis convaincu qu'un bon leader, c'est une personne qui reconnaît qu'il a besoin des autres. Il sera capable de valoriser les dons des autres et l'équipe. Revenons à Jésus maintenant. Comment s'approcher de Jésus ? Comment désirer le connaître ? Comment recevoir ce qu'il a en réserve pour moi ? Si je dis systématiquement, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ton aide, je sais déjà, je n'ai pas besoin de tes conseils. Donc notre orgueil qui peut se manifester dans la vie de tous les jours se manifeste aussi de la même manière dans dans notre vie spirituelle. Et j'ai mis cette petite phrase comme ça, si je n'accepte pas l'aide des autres, je n'accepte pas l'aide de Dieu. Parce qu'en fait, l'aide de Dieu, elle passe aussi concrètement par les autres. Donc si vous n'arrivez pas à recevoir l'aide des autres, pensez pas que vous allez réussir à recevoir l'aide de Dieu. Cet orgueil qui peut nous bloquer dans la vie courante va nous bloquer aussi dans notre vie spirituelle. Mais le plus dangereux est que notre orgueil qui n'a pas besoin ou croit ne pas avoir besoin d'un sauveur. Ça, c'est terrible. On croit par orgueil qu'on n'a pas besoin d'un sauveur. L'orgueil peut nous priver finalement du salut éternel. N'est-ce pas ce qu'on entend fréquemment lorsqu'on parle à des non-croyants de Jésus ? J'ai besoin de rien. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On pense ne pas avoir besoin. On ne voit pas notre réalité spirituelle. On ne veut pas voir notre réalité spirituelle. Je ne peux pas recevoir Jésus lui-même dans ma vie et tout ce qu'il a pour moi tant que je ne reconnais pas avoir besoin d'être sauvé. Vous êtes là cet après-midi à avoir accepté un jour d'être sauvé. Vous êtes nombreux, probablement, à avoir accepté Christ, accepté Christ dans votre vie, dans votre cœur. Vous avez reconnu que vous ne pourrez pas y arriver seul. Amen. Alléluia. Mais parfois, on lui dit, viens avec, viens dans ma vie, viens avec, viens dans ma voiture. Et on lui montre qu'on sait déjà. C'est vous. Moi, je crois que c'est nous qu'on garde le volant. Hein, des fois, on dit, ah, c'est Jésus qui prend le volant. Non, je crois qu'il nous laisse les responsabilités du volant. Mais parfois, on veut lui montrer le chemin. Tu vas voir, je suis un bon. Tu peux compter sur moi. Moi, je sais déjà où il faut aller. Vous voyez, on le prend avec, mais on ne l'écoute pas. On veut arriver sans lui. Comme ça, il sera content de nous. Ah, waouh, lui qui savait le chemin, même sans me demander. Ça, c'est ce qu'on croit. Hein. Donc, on ne lui demande rien, on ne lui dit rien, si ce n'est regarde-moi. Et puis, à la limite, protège-moi. Hein, parce que sur la route, on sait bien qu'on peut avoir des accidents, puis ce n'est jamais notre faute. C'est la faute des autres, parce que les autres ne savent pas conduire. Mais nous, on sait. Ça, c'est sûr. Et si on fait fausse route, on est tellement convaincu qu'on est dans le juste que Jésus doit parfois nous laisser prendre le mur pour qu'on se remette en question, puis pour qu'on lui demande son avis et son aide. Jésus aime que l'on reconnaisse notre besoin de lui. Jésus aime que nous ne soyons pas attirés par la réussite, par les premières places, mais par ce qui est humble, afin que lui puisse se glorifier en nous et nous élever au temps convenable. La victoire de l'orgueil, la victoire sur l'orgueil, qui dit « je suis, je n'ai pas besoin », elle se gagne lorsqu'on accepte de passer là où Christ a passé, de marcher à sa suite. C'est encore avec moi, je suis un petit peu long. Vous tenez le coup, ça va? Vous êtes chou, merci. Alors, on va regarder maintenant rapidement, en fait, pour terminer, je vais faire le lien, on a vu un peu ce que l'orgueil fait. Maintenant, on va regarder comment Jésus incarne l'humilité. Et puis justement, si on veut gagner sur l'orgueil, on doit passer là où Christ a passé. Alors, par où il a passé, Christ? Et la nativité nous le montre déjà. Je reviens à Noël, il est né dans une mangeoire. Il est né au milieu d'une étable. Il n'y avait pas de place ailleurs. Franchement, on n'a pas déroulé de tapis rouge pour Jésus. C'est quand même dingue. Enfin, pour Marie, en tout cas. Quand même, elle portait le Fils de Dieu. On aurait pu imaginer qu'il y ait une place au moins dans un hôtel. Mais non. On n'a pas envoyé quelqu'un de l'hôtel dormir dans l'étable pour laisser la place à Marie qui était enceinte. Aucun privilège. Rien. Il a dormi, Marie a dormi sur la paille. Ma victoire sur l'orgueil commence lorsque je peux dormir partout. Pourquoi je dis ça comme ça? Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'un traitement spécial. Je suis moi-même indépendamment de mon lieu d'origine, de mon nom, de ma famille, de l'état, de mes finances. Je suis moi, je suis moi-même. Je n'ai pas besoin de quelque chose de spécial. Je peux dormir sur la paille si c'est là que je dois aller dormir. Jésus s'est dépouillé de tout. On connaît bien ce texte aussi de Philippiens, au chapitre 2, où il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc Jésus s'est incarné, Jésus a quitté sa gloire céleste pour venir sur la terre. Mais il aurait pu choisir un autre statut social, quelqu'un d'autre que Marie, un autre lieu que la crèche. Mais ce texte que j'ai lu au tout début, Luc 1, 52, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Jésus inverse les valeurs. Il n'est pas venu pour les « je suis, je sais, je n'ai pas besoin », mais pour ceux qui ont été capables de reconnaître en lui le Fils de Dieu sans considérer son origine, sa fortune ou quoi que ce soit d'autre. Il est venu pour ceux qui ont reconnu que ses paroles n'étaient pas humaines, mais venaient du Père. Il est venu pour ceux qui ont reconnu qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Il est venu pour ceux qui ont reconnu que ses prodiges, ils n'étaient pas truqués, mais qu'il était bien Dieu. Ma victoire sur l'orgueil, elle commence lorsque je suis capable de renoncer à ce que j'ai et à mon statut pour favoriser les relations. Dieu, il a tout laissé, quitté sa gloire pour être en relation avec toi, pour te rejoindre, toi, là où tu es. Jésus a refusé la royauté. On peut lire dans Jean 6, 15. Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Les gens l'acclamaient, les gens voulaient faire un roi politique, mais Jésus, il a choisi la croix plutôt que la royauté. Il désirait être adoré par des disciples plutôt que loué par quelques adeptes. Il désirait être le roi des cœurs et non pas ce roi politique. Il a choisi les crachats plutôt que l'or. Il a choisi l'obéissance. Il savait que ce n'était pas le temps de Dieu. Ma victoire sur l'orgueil commence lorsque je suis capable de renoncer à un titre ou un poste en vue pour accomplir la volonté du Père. Qu'est-ce qui est plus important ? Moi, chaque fois que j'ai commencé un nouveau truc avec Dieu, j'ai chaque fois eu de l'autre côté une offre super intéressante pour un travail qui payait mieux. C'est dingue, hein ? Chaque fois, qu'est-ce qu'on va choisir ? Dernière chose, Jésus est monté sur un ânon. Quand il est entré dans Jérusalem, lorsque les gens disaient « Hosanna », il est monté sur un ânon alors que les rois entraient toujours sur des grands chevaux. Il a choisi un ânon. Ma victoire sur l'orgueil commence lorsque je suis capable de choisir le bon moyen de transport pour atteindre l'objectif de Dieu et non pas le mien. Lorsque mon but est que Jésus soit visible et non pas moi. Alors oui, le message de Noël, les amis, c'est un message d'humilité. Serait-il possible que mon orgueil m'empêche encore de saisir tout ce que Dieu a pour moi en Jésus ? Serait-il possible encore que mon orgueil ne me permette pas de refléter Christ au quotidien ? Je termine avec ce verset de Romains 12, verset 16. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Je crois cet après-midi, des formations professionnelles, je crois cet après-midi vraiment que le Saint-Esprit, il aimerait nous rendre victorieux sur l'orgueil. Il aimerait nous encourager. Jésus est venu humblement. Il désire faire grâce aux humbles, élever celui qui s'abaisse, confondre le fort par le faible. Est-ce que on a l'humilité de dire cet après-midi, j'ai besoin d'un sauveur? Est-ce que j'ai l'humilité de dire, je ne peux rien faire sans Christ? Est-ce que j'ai l'humilité de dire, je ne suis pas important, mais Christ en moi, lui, il est important? Je vous invite à la prière. Père, merci pour le don de ton Fils et merci pour ce choix d'humilité. Merci pour ton cœur d'humilité. Merci ce matin, cet après-midi, de nous apprendre l'humilité. Saint-Esprit, viens visiter nos cœurs. Seigneur, je sais que nous avons des racines d'orgueil. Merci de les mettre à la lumière encore cet après-midi afin que nous puissions gagner des victoires sur cet orgueil en nous. Afin que nous puissions mieux te connaître, nous approcher de toi, mieux reconnaître qui tu es, mieux reconnaître notre besoin de toi. Saint-Esprit, souffle encore sur nous cet après-midi. On veut se débarrasser des « je suis », des « je sais », des « je n'ai pas besoin ». Seigneur, nous avons besoin de toi. Et dans ce culte de Noël, Seigneur, on veut te déclarer Sauveur et Seigneur. Tu es notre Sauveur et Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'accueillons comme le roi des rois. Seigneur, nous sommes parfois même nous-mêmes choqués que tu sois né dans de telles conditions, parce qu'on aurait de la peine à l'accepter pour nous-mêmes. Mais Seigneur, tu nous parles cet après-midi. Seigneur, ce chemin d'humilité, nous voulons aussi le désirer. Fais-nous cette grâce de transformer notre cœur, d'arracher ces racines d'orgueil afin que vraiment nous puissions te suivre là où tu as passé. Seigneur, que ton nom soit glorifié au travers de nos vies, au travers de l'Église que nous formons ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen.